Donc je vais proposer à Louise Sauvé de nous faire une conférence introductive. Donc Louise Sauvé, qui va se présenter, représentante de TELUQ, Téléuniversité du Québec, représentante aussi de l'Association pour la formation à vie du Québec.
Alors, je remercie Denis de m'avoir invité à échanger avec vous sur la personnalisation de l'apprentissage. Je salue également les représentants du ministère, Madame la Présidente, et heureux participants ou malheureux, selon ce que vous retiendrez de la rencontre. Alors, il me fait vraiment plaisir de vous parler de la personnalisation de l'apprentissage parce que c'est un devenir. On parle de plus en plus de cet aspect dans l'enseignement. Et nous l'expérimentons maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc, vous pouvez comprendre qu'au début, c'était très difficile. Maintenant, grâce aux technologies web, cela est devenu une réalité que nous pouvons pas juste expérimenter, mais que nous pouvons analyser et évaluer, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, j'avais envie de vous présenter Québec hier. C'est le château Frontenac, mais avec un peu plus de neige qu'ici. Sauf qu'hier, heureusement, il faisait 19 degrés. Non, pas hier, avant-hier, parce que je suis arrivée hier. Donc, il faisait 19 degrés, mais c'était magnifique. Je veux aussi vous parler de mon université, la Téléuniversité, qui est la seule institution francophone d'enseignement universitaire à distance au Canada. Alors, très, très vite, je vais vous parler de mon institution et on va immédiatement passer à la formation en ligne et à la personnalisation. Donc, la TELUQ, c'est 18 000 personnes âgées entre 35 et 39 ans en moyenne, dont la formation, ils reviennent vers nous vers une formation initiale ou une formation tout au long de la vie, puisque nous avons à la fois des programmes pour les formateurs en milieu de travail, mais aussi pour les personnes qui sont à la retraite et qui souhaitent se former pour différentes activités. Nous avons une expertise reconnue depuis plus de 40 ans, je dis plus, mais maintenant c'est 40 ans, avec 70 professeurs, donc vous voyez, on n'est pas très nombreux pour les 18 000 étudiants que nous avons, 160 tuteurs qui nous représentent auprès de ces étudiants au moment où ils font leur apprentissage, et 50 professionnels pédagogiques. Nous offrons 75 programmes et plus de 360 cours qui sont accessibles sur Internet à l'intérieur de nos programmes. Et naturellement, nous faisons l'émission des trois grades, tout comme les universités traditionnelles, puisque nous sommes une université. Nous avons plusieurs fonctions à l'intérieur de l'institution, je ne les passerai pas. Le professeur en soi avec son équipe pédagogique, les apprenants, le tuteur et le comité administratif. Si vous voulez en savoir un peu plus, nous y reviendrons. La distance pour nous, qu'est-ce que ça doit être? C'est un mandat, ça fait partie de nos lettres patentes. Il faut que ça soit flexible dans le rythme et l'organisation des études. Donc, en tout temps, un étudiant peut s'inscrire. Alors, et commencer sa formation, il n'a pas de date fixe. Il faut qu'on propose aussi des approches pédagogiques qui soutiennent l'apprentissage avec un encadrement individualisé. Et l'environnement offert à l'étudiant doit être constamment mis à jour, tant du point de vue de son campus virtuel que de la bibliothèque, des services que nous offrons et surtout de l'appui que nous faisons aux étudiants lorsqu'ils font leur formation, par exemple, pour la persévérance aux études. Et nos technologies sont naturellement le plus possible centrées sur l'étudiant. Des fois, on le veut, mais pas toujours. Diversifiées, asynchrone, puisque nous sommes à distance, donc il y a vraiment une distance entre les étudiants et nous. Et en constante évolution, nous avons des plateformes de base auxquelles nous ajoutons des outils web et des technologies mobiles. Mais nous maintenons notre plateforme parce qu'elle nous permet une flexibilité qu'actuellement les technologies web ou les technologies qu'on dit 2.0 ne permettent pas encore. La formation en ligne, je pense que tout le monde le sait, mais j'aime bien mettre mes couleurs au départ, donc très rapidement. Sa spécificité, c'est que ça réside dans l'utilisation des réseaux Internet, donc il n'y a aucun autre moyen. La communication entre l'enseignant et l'étudiant se fait grâce aux outils technologiques et en général, c'est une communication synchrone et asynchrone. On a trois types de formation en ligne qu'on peut retrouver. La formation synchrone, et là, on se rapproche particulièrement de la formation sous campus, puisque tout se fait en temps réel par des moyens technologiques comme la visioconférence, le travail collaboratif, les collecticiels. Donc, au niveau de la formation synchrone, on a effectivement un certain nombre de cours offerts sur ces supports, et particulièrement au deuxième et au troisième cycle. au niveau de la formation asynchrone qui rejoint plus le premier cycle. Donc, c'est une formation complètement où l'étudiant est introduit dans un environnement d'apprentissage et qu'il est appuyé par un tuteur dans son environnement d'intervention et qui lui permet de naviguer à son rythme. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle une formation mixte. Avant, c'était vraiment séparé. Maintenant, depuis quelques années, nous faisons de la formation mixte où, en alternance à l'intérieur du cours, on offre à la fois une formation asynchrone et une formation synchrone. Qu'est-ce que c'est pour nous l'apprentissage en ligne tout au long de la vie? C'est la définition de notre centre. Je dirige un centre d'expertise et de recherche sur l'apprentissage à vie qui existe depuis maintenant 18 ans. 18 ans. Et la définition que nous en avons retenue, c'est que ça se réfère à l'acquisition des connaissances et des compétences. Pour nous, les compétences sont importantes, particulièrement au niveau universitaire, pour la formation continue, la formation en milieu de travail, et doucement, on est en train de l'intégrer dans l'enseignement régulier. Et c'est considéré comme un processus continu qui ne s'achève pas après des études scolaires ou universitaires, mais qui se développe de manière ininterrompue tout au long de la vie professionnelle. Et se poursuit au-delà de la retraite. C'est pour ça qu'on dit qu'on a des programmes maintenant qu'on appelle de gérontologie. Je sais pas, le terme n'est pas toujours apprécié. On aime mieux le troisième âge où les gens en retour de vie active. Et se poursuit au-delà de la retraite en s'étendant de nos jours à toutes les étapes de la vie et à tous les groupes sociaux, en grande partie grâce aux possibilités offertes par les technologies web. La personnalisation de l'apprentissage. Bon, ça s'inscrit dans le courant actuel où on parle beaucoup de proximité, de flexibilité et de personnalisation. Cette personnalisation, on s'est aperçu il y a plusieurs années qu'il y avait très peu d'outils qui le permettaient. Maintenant, c'est rendu concret. On peut personnaliser presque à outrance grâce aux technologies web. Qu'est-ce qu'on entend par ce concept? Ce concept-là s'appuie à la fois sur des théories issues du courant humaniste, dont autonomisation, l'éducation des adultes, et se situe à la convergence des théories personnalistes de Rogers et de l'auto-formation éducative de Carré. On a travaillé ensemble sur cet aspect. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau micro? Donc, le sujet qui est au cœur de nos préoccupations. Et pour lui, ce qui est important pour nous, c'est ses caractéristiques personnelles. Souvent, on va faire une formation, mais on se préoccupe pas beaucoup de la façon dont la personne apprend. Alors, pour nous, c'est extrêmement important et le système doit s'adapter à l'étudiant au point de vue de son apprentissage, mais aussi au point de vue de ses compétences, la reconnaissance de ce que je sais. Je pense que vous connaissez la même réalité que nous. Maintenant, un jeune qui sort du secondaire a déjà son actif 15 heures de travail par semaine. Alors, il acquiert des compétences hors de son école et ces compétences-là sont parfois le rend très apte à avancer très rapidement dans sa formation post-secondaire. Alors, donc, c'est important de pouvoir lui permettre de faire un bilan de ses acquis pour lui permettre après de se faire reconnaître un certain nombre de compétences et pourquoi pas de crédits de formation. Par ailleurs, il y a l'apprentissage qui doit être fait tout au long de la vie. Donc, pour que cet apprentissage soit tout au long de la vie, il y a une préoccupation de portfolio. Il faut que ce que la personne fait soit récupérable, soit démontrable et lui permette probablement d'avoir une meilleure employabilité ou de trouver du travail à sa satisfaction. Et on a également une préoccupation du dispositif. Comme on veut que l'enseignement s'adapte, il faut que les dispositifs nous permettent de faire en sorte que cet apprentissage soit le plus personnalisé possible. Donc, nous avons à la fois une démarche d'intérêt du point de vue de la pédagogie et de la technologie au niveau du centre. Et nous utilisons, à l'inverse de régulièrement ce que vous entendez comme information, en disant « nous avons des préoccupations technopédagogiques », nous disons « nous avons des préoccupations pédago-technologiques ». Donc, nous souhaitons que la pédagogie soit non pas au service de la technologie, mais que la technologie soit au service de la pédagogie. Donc, il faut développer dans ce sens. Alors, ce que l'on connaît en général lorsqu'on regarde la formation, il y a un bassin important au primaire et secondaire, au post-secondaire. La formation continue commence à prendre une place assez importante et naturellement, la formation lors de la retraite, on s'y attarde. Certaines universités, jamais, d'autres commencent à le faire, mais ça reste que c'est une clientèle qui, vous le savez très bien, avec la décroissance de la natalité, va devenir peut-être la clientèle la plus importante pour les universités. Alors, nous y intéressons particulièrement et comme l'adulte revient aux études, cet adulte-là souhaite avoir de la personnalisation de l'apprentissage parce qu'elle a acquis des compétences qui ne sont pas identiques. Alors, et qu'il souhaite que lorsqu'ils viennent à l'université, comme leur motivation n'est pas nécessairement d'avoir un diplôme, donc ils souhaitent que cette formation réponde à leurs besoins, qu'il soit personnel ou qu'il soit en lien à un bénévolat qu'il souhaite faire dans le milieu ou tout au moins un travail qu'il souhaite réaliser et qui ne serait pas dans le sens du travail qu'il a fait tout au long de sa carrière professionnelle. Alors, pour être plus concrète, au lieu de vous donner des grands principes, j'ai pensé vous dire qu'est-ce qu'un dispositif en ligne devrait être si on s'intéresse à la personnalisation de l'apprentissage. Vous pouvez être d'accord ou pas. J'espère que je vais ouvrir la porte à la discussion. Alors, ce dispositif-là, c'est sûr que le premier élément, il doit personnaliser l'apprentissage en s'adaptant aux besoins, aux connaissances, aux compétences de l'apprenant, tout en lui assurant une formation de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où il rentre dans le système, il devrait être capable, et le système devrait être capable, de reconnaître qu'il a des connaissances, qu'il a des compétences et qu'il a des besoins, et qu'il puisse s'adapter en fonction de ses besoins. Donc, des outils mis à la disposition de l'apprenant qui souhaite faire ce bilan, de pouvoir le réaliser. Malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup d'outils qui permettent de faire ça aux étudiants, si ce n'est papier. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais est-ce que ça existe en ligne? Oui, maintenant ça existe. Alors, ça permet, je pense que tout le monde parle beaucoup de bilan des acquis, c'est devenu très à la mode. Alors, mais pourquoi c'est très à la mode? Parce que on a beaucoup d'adultes qui reviennent aux études et ce bilan-là est important pour permettre de les qualifier et de les positionner à travers sa formation. Tout dispositif-là doit aussi permettre de créer et d'indexer. J'étais très contente, tantôt on a parlé d'indexation, c'est extrêmement important. On s'aperçoit que plus on va indexer des contenus, des ressources numériques, plus on va l'indexer au niveau de son fragmentation, plus ces outils vont être utilisés, plus ces ressources vont être utilisées. Donc, l'importance d'avoir un environnement qui permette dès le départ d'indexer. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'outils qui nous permettent de mettre des contenus en ligne, mais qui ne permettent pas nécessairement d'indexer ces contenus. Et puis, au bout de 10 000, 15 000, 20 000 ressources pédagogiques, on se dit, oups, ouais, il faudrait vraiment peut-être commencer à l'indexer. Alors, si on peut avoir des plateformes qui, dès le départ, amènent cette notion d'indexation de façon très conviviale parce qu'il est intégré à l'intérieur de l'outil, donc ça veut dire que le concepteur qui a déjà donné un certain nombre d'informations, le système va aller chercher ces informations, va les indexer. Donc, ce qui va rester à faire la plupart du temps au concepteur ou à l'équipe pédagogique, c'est de valider cette indexation. Donc, vraiment, utiliser les outils web pour faciliter aussi le travail des concepteurs et pas tout simplement le travail des apprenants. Et également qui nous permettent d'atteindre des objectifs, de développer des compétences. Donc, il faut avoir des outils qui nous permettent d'aller chercher ces aspects-là. Et quand je dis dans un même environnement d'apprentissage, ça ne veut pas dire que ces outils-là viennent d'un même environnement de conception. Mais c'est important qu'ils soient dans un même lieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué un étudiant qui va passer à travers les 7 outils choisis par son enseignant, mais qui à chaque fois, je rentre, je sors, et là, je n'en peux plus. Alors, c'est important que ces outils-là soient intégrés dans un même environnement, et plus qu'intégrés dans un même environnement, et pas à chaque fois que je rentre, je dois mettre mon mot de passe. Ouf. Alors là, je passe dans l'un, dans l'autre. Ah, voilà, je mets mon code d'accès. Donc, le guichet, ce que nous appelons le code unique, commence à devenir extrêmement important. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment pensé au moment où on a développé ces outils au code unique. Le code unique ne veut pas dire nécessairement standardisé, parce que les standards, il faut faire attention. Écoutez, moi, je suis passée à travers 3 standards pédagogiques depuis 15 ans. Et à chaque fois, ils ont tellement tout changé qu'il faut tout changer les ontologies qu'on a fait. Alors, vous savez, les standards, c'est beau, mais ça dure jamais très longtemps. Et la plupart du temps, le problème, c'est que les premiers standards ont été faits par des ingénieurs. Alors, imaginez un ingénieur qui fait des standards pédagogiques. J'espère qu'il n'y a pas d'ingénieur dans la salle. Disons que, vous savez, méthode d'apprentissage, transparent, diaporama, tableau. Ah bon, je dis ça, c'est une méthode d'apprentissage. Oui, peut-être, c'est une méthode d'apprentissage. Je pense que c'est plus une illustration. Alors, voyez-vous, les standards peuvent être pédagogiquement parfois très rigolos. Alors, donc, très important, un environnement qui est intégré pour l'apprenant, indépendamment des outils qu'on utilise. Entièrement web. Fondamental. Les plugins, Les téléchargements, oubliez ça. C'est épouvantable pour l'étudiant. Première des choses, je ne peux pas le faire au travail. 95% des gens nous disent « Ah, au travail, je ne peux rien télécharger. » Donc, je ne peux pas suivre de formation au travail. Ou, si j'ai 10 minutes au travail, je ne peux pas faire un apprentissage parce que je ne peux pas. Ce n'est pas accessible. Donc, attention. Alors, entièrement web, qui ne nécessite aucun téléchargement, qui facilite l'accès, peu importe la situation géographique des acteurs, du moment, dès qu'ils disposent d'un ordinateur, de ses accessoires et d'une connexion Internet, puis on espère un jour, de façon au niveau satellite, sans connexion Internet, j'ouvre mon ordinateur et c'est accessible, on va y arriver. Donc, déjà là, la formation, elle est partout. Elle doit supporter plusieurs modes de diffusion, que ce soit une formation synchrone, asynchrone ou mixte, et elle doit être offerte de façon simultanée. Je suis un apprenant qui apprend en contact avec d'autres, je devrais avoir accès à ce type d'information. Je suis un apprenant qui adore apprendre seul, je devrais avoir accès à ce type de formation. Donc, pour un même contenu, plusieurs modes de diffusion, et c'est possible, sans que ça soit extrêmement coûteux. La remarque qu'on a tout le temps, « Mais c'est coûteux !» Non, pas du tout. On a juste à être plusieurs, à développer cette formation, et ça se fait quand même à des coûts très raisonnables. Un dispositif qui s'adapte à la méthode ou aux approches pédagogiques. Malheureusement, la plupart du temps, les dispositifs que nous avons, il y a une approche, ceux qui les ont conçus. Et là, le professeur essaie de rentrer là-dedans, puis il fait « c'est pas ce que je fais normalement ». Alors, dépendamment de la tendance, alors nous allons passer du behaviorisme au connectivisme jusqu'à la personnalisation. Mais moi, si je suis cognitiviste ou si je suis constructiviste, je serai peut-être pas nécessairement à l'aise avec l'approche qui est prônée par le dispositif. Donc, le dispositif doit être suffisamment adaptable pour faire en sorte que nos enseignants se retrouvent à l'intérieur au niveau de leur approche. Et ça se fait, ça se fait. Un dispositif aussi qui offre des outils d'aide à la conception. J'étais contente, on commençait à en parler lors des discours précédents. Écoutez, nous, on a vu l'expérience d'outils d'aide à la conception, et j'en parlais à l'heure du midi, où il y a eu un défi lancé à une nouvelle institution de mettre en ligne un programme de formation complet collégial. Et ils avaient un an pour le mettre en ligne et personne n'avait jamais fait de formation en ligne. Et s'ils le faisaient, ils obtenaient leur statut de collège, naturellement évalué par leur père. Et ils ont gagné. Donc, ça veut dire que quelque part, ça existe, ces dispositifs-là. Et quelque part, ils n'ont presque rien construit. Ils ont fait des partenariats, ils ont intégré ce qui existait, ils ont réussi à mettre en ligne, et ça, de façon personnalisée, une formation offerte à tous les francophones, Canadiens, hors Québec et Ontario. Alors là, ça, c'était vraiment chapeau. Alors, ces outils d'aide à la conception doivent faciliter les méthodes pédagogiques. Je veux développer un jeu sérieux. Je ne veux pas avoir un an et demi pour développer mon jeu. Est-ce que je peux le faire en 3 heures? Oui, c'est possible maintenant. Il existe des coquilles génériques de jeux qui permettent de développer des jeux sérieux en moins de 3 heures. Et sophistiqués, avec du contenu multimédia. Et si j'avais eu le temps, je vous aurais mis au défi de jouer avec moi. Mais et dans tous les domaines, c'est possible. Oui, maintenant, ça existe. Simulation, approche modulaire, résolution de problèmes, etc. Un dispositif aussi qui met en place les principales fonctions de l'enseignement en ligne. En général, on s'occupe de l'étudiant, mais on ne s'occupe pas beaucoup de l'enseignant. On ne s'occupe pas beaucoup de ceux qui soutiennent les étudiants. Donc, on ne s'occupe pas beaucoup aussi de l'enseignant qui construit ces contenus-là. Donc, le dispositif doit tenir compte autant de l'enseignant qui fait ce contenu, de l'étudiant qui le reçoit, mais aussi de la personne qui va supporter son apprentissage. Et si le dispositif nous permet de les créer les trois en même temps, c'est extraordinaire. Ça existe, ça aussi. Et ce qui fait que l'enseignant ou le tuteur qui doit corriger ou qui doit faciliter l'apprentissage aura à sa disposition tous les outils nécessaires pour aider l'étudiant dans ce sens. Un dispositif aussi qui offre des environnements d'apprentissage qui soutiennent plusieurs éléments. Le rythme d'apprentissage, donc le jour, le soir, la nuit, en emploi, en famille, concentré, réparti, allongé. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une démarche qu'on propose aux étudiants sur 15 semaines quand il peut le faire en 4? Est-ce qu'on ne peut pas lui offrir dans le même cours des cheminements différents, personnalisés, séquentiels, modulaires? et pourquoi pas très bien structuré pour ceux qui en ont besoin. Est-ce que le système permet de répondre aux besoins d'apprentissage? La plupart du temps, on parle du savoir, parfois du savoir-faire. Le savoir-être semble une bête noire ou une bibitte à huit pattes. Et quand on parle du savoir-agir, ah ben là, oh là là, attention, là, je pourrais dire que c'est un mille pattes. Donc, mais en même temps, notre fonction première est d'amener les gens à savoir agir. Si on est capable de savoir agir lorsqu'on sort de l'université, on peut travailler n'importe où, dans n'importe quoi, parce qu'on est capable de transférer nos savoirs. Alors, j'aimerais regarder juste dans les cours combien d'objectifs sont axés sur le savoir agir, qui tient compte aussi du profil d'apprentissage. Vous voyez, vous m'avez dû entendre qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'apprends en écrivant. J'apprends pas en écoutant. Et il y a des personnes qui apprennent juste en écoutant, qui écrivent jamais. Mais tous les deux vont réussir. Donc, il faut que je sache quel est le profil d'apprentissage. Moi, j'adore écouter quelqu'un m'expliquer quelque chose. D'autres vont dire non, pas encore une autre démonstration. Alors, donc, il faut que le système fasse en sorte que, selon ma façon d'apprendre, je vais lui proposer des objets en conséquence, des ressources pédagogiques en conséquence. Pourquoi vous pensez qu'on développe tous des ressources pédagogiques? C'est pour que, et pourquoi souhaitons-nous tous les partager? C'est au bout de la ligne, pour permettre un apprentissage le plus personnalisé possible. Si autour de cette salle, nous étions tous en économie, qui est peut-être le cas, et si nous étions toutes en initiation à l'économie, imaginez, nous avons tous des profils différents d'enseignants, imaginez la mine de contenu que nous pourrions, sur un même sujet, mettre à la disposition de nos étudiants et de façon traiter de façon différente. D'où l'importance de réunir nos ressources. Et, naturellement, fondamentalement, maintenir la motivation de l'apprenant. Comment faisons-nous? En pensant qu'un apprenant qui revient aux études, il y a certaines compétences qu'il n'a pas. Il y a certaines stratégies d'apprentissage qu'il n'a pas. Donc, il faut prévoir dans notre franc-maçon qu'on puisse lui offrir des outils d'aide que nous appelons au Canada à la persévérance aux études. Donc, je ne sais pas comment faire une table de matière. Vous allez dire, normalement, on devrait tous savoir, mais je pense qu'encore aujourd'hui, certains de nos étudiants ne le savent pas. Donc, est-ce qu'on peut leur mettre des outils entre leurs mains qui vont faciliter ce travail parce que nous ne leur ferons pas cette formation? Je suis devant une page blanche. Par quoi dois-je commencer? Est-ce qu'il y a des trucs pour faire en sorte que mon devoir, parce que j'ai pris du temps, je pensais que j'avais beaucoup de temps, je ne sais pas gérer mon temps, et j'arrive à la dernière semaine, je dois remettre mon travail. Est-ce qu'il y a des manières de m'aider pour faire en sorte que je puisse le réaliser dans les délais, même si je suis une personne qui est à la dernière minute? Donc, aider nos étudiants aussi à acquérir des stratégies qui vont leur permettre de réussir dans leurs études. Un dispositif qui va mettre en place aussi un environnement d'apprentissage qui permet à l'apprenant d'établir un cheminement personnalisé, individuel ou collectif. Donc, pour un même cours, je devrais être capable de lui offrir différents types de cheminements, dont des structures différentes pour aider les étudiants à cheminer. Le dispositif, est-ce qu'il tient compte de l'ergonomie cognitive et technologique? On en parle beaucoup, on écrit beaucoup, mais on ne retrouve pas beaucoup de ressources qui en tiennent compte. Et ça, c'est fondamental. Parce que si la ressource, tantôt on parlait de lisibilité, on parlait d'accès, moi je parle de convivialité. Si on n'examine pas nos ressources et elles permettent de faire ça, je ne suis pas sûre qu'elles sont ergonomiquement intéressantes. On peut avoir beaucoup de contenu, mais il faut avoir des critères. Alors maintenant, nous, dans tous nos outils, dans tous nos objets d'apprentissage, nos ressources qu'on met à la disposition de nos étudiants, on a toujours un « prends 30 secondes ». Et ce 30 secondes, c'est « peux-tu m'évaluer, savoir au niveau de ma lisibilité, au niveau de ma structuration, est-ce que cela correspond bien ?» Et je dois vous dire que ça aide beaucoup lorsqu'on a à dire à nos enseignants ce contenu-là, je pense qu'il faudrait un peu le revoir au point de vue technologique, au point de vue pédagogique. Au départ, on dit technologique, parce que si on dit pédagogique, des fois, c'est pas facile. Alors, on dit au point de vue technologique, et puis on influe sur la pédagogie. Alors, mais de voir une évaluation en ligne faite directement par nos étudiants au moment qu'ils l'utilisent, ah, là, c'est une information directe. Hein? Alors, donc, très important, convivialité sur le plan de la navigation de l'accès, facilité d'utilisation autant pour les concepteurs, les apprenants, les intervenants et les gestionnaires. En général, on le fait que pour les apprenants. Les autres, on verra. Il faut que ça le soit pour tous si on veut avoir beaucoup de contenu en ligne. Adaptabilité des contenus, la granularisation. Plus vous allez granulariser, plus on va utiliser vos ressources. Moins vous granularisez, moins on les utilise. Puis là, on dit, pourtant, on a de tellement belles ressources. Qui va utiliser une vidéo d'une heure? Par contre, on aura peut-être 100 personnes qui vont utiliser chaque minute de ce vidéo à des fins différentes. Donc, il faut apprendre à granulariser aussi, même si le contenu en soi, il est très bien. Mais c'est comme toute chose. Lorsqu'on fait un discours, on a une table de matière dans notre discours. On a un schéma, on a une structure. Alors pourquoi on ne peut pas regranulariser ce contenu-là à partir de cette structure et de le rendre disponible comme ressource? Aussi, il faut que l'organisation des contenus, selon l'approche éducative privilégiée, et là, il faut que j'accélère, et l'intégration des contenus provenant de d'autres plateformes. On parle beaucoup de standards. Parce qu'on dit, bon, lorsqu'on essaie d'intégrer d'une plateforme à l'autre, ça ne va pas. Pourquoi ne parlons-nous pas que les plateformes ou les dispositifs intègrent d'autres contenus qui sont faits ailleurs, sans une intégration à outrance? Pourquoi on n'amène pas une intégration des contenus en les laissant ailleurs? On utilise les standards pour dire, ah, tel contenu, on peut pas. Non. À chaque fois qu'on arrive dans un certain moment, on dit, ah, ça, c'est très intéressant, est-ce que je peux le faire? L'équipe technologique dit, ah, non, on peut pas, on n'a pas le bon standard. Et pourtant, on peut. On peut presque tout intégrer dans une plateforme. Ça dépend comment on fait cette intégration-là. Et enfin, que la plateforme offre une diffusion multiple. Demander à un enseignant de faire un enseignement hybride, puis il n'a pas accès à la vidéoconférence dans sa plateforme. Il peut pas créer des ateliers. Il ne peut pas intégrer des contenus dans ses ateliers. Il faut qu'il aille dans un autre instrument. Ce n'est pas intégré. On parle de plus en plus de plateformes hybrides. On en parle. On n'en trouve pas beaucoup. Et quand on en trouve, ce n'est pas des plateformes de développement de contenu, c'est des plateformes de gestion de contenu. Donc, on a un peu de difficulté à intégrer tout ça. Et l'enseignant va soit faire du asynchrone ou va faire du synchrone parce qu'il ne veut pas être dans les deux plateformes à la même temps. Alors, si déjà les dispositifs intègrent l'ensemble des outils nécessaires à la conception, et ça, c'est très facile à faire, et on n'a pas besoin d'être tellement informaticien pour le faire, donc si on peut intégrer ces deux aspects, on aura plus de formation qui sera synchrone, asynchrone et mixte. Un dispositif en ligne qui offre des activités d'apprentissage permettant aux apprenants d'évaluer de façon continue des acquis. On met beaucoup d'exercices en ligne, mais on leur donne pas de contenu. Ici, c'est un exemple de jeu, d'un jeu sérieux qui a été fait, et tous les contenus, une fois le jeu est terminé, il n'est plus resté dans la boîte du jeu. Il est transféré dans le portfolio de l'étudiant. Donc, je sais ce que j'ai réussi et je sais ce que je n'ai pas réussi. Et même, j'ai une prescription du matériel que je peux reviser sur ce que j'ai fait de jeu sérieux. Parce que souvent, on utilise le jeu sérieux dans l'enseignement pour faire soit de la sensibilisation, soit de l'acquisition, ou soit de l'évaluation. Sauf que le problème, une fois que le jeu est fini, je n'ai plus rien. Alors, ce qu'il faut, c'est que le jeu sérieux me donne des outils pour que je fasse un retour sur l'apprentissage et que je sache ce que j'ai réussi ou non. Alors, c'est directement dans mon portfolio. Il faut aussi, ici c'est un exemple sur l'actualisation en économie. Je suis allée chercher quelque chose en économie. Et ici, c'était une activité, mais le correctif, l'évaluation du correctif, c'est d'expliquer la démarche intellectuelle qui était derrière la formule mathématique. Donc, il faut fournir ça aux étudiants. En général, on fournit, je dirais, juste ça. On fournit juste la bonne réponse, mais on fournit pas tout le raisonnement qui est derrière. Il faut fournir. Si on veut vraiment qu'il y ait une évaluation formative, que la personne apprenne où est ses erreurs, il faut aussi formuler le raisonnement qui est derrière. On oublie parfois ça. Il faut aussi qu'on mette à la disposition des mesures de soutien à l'apprentissage. Ce que j'expliquais tantôt, des outils d'aide pour rédiger une dissertation. Comment faire? Des outils d'aide. On me demande dans un de mes cours de faire une carte conceptuelle. Qu'est-ce que c'est ça, une carte conceptuelle? La plupart d'entre vous le savent, mais parfois un étudiant ne le sait pas nécessairement. Alors donc, il faut lui expliquer comment faire. Alors, quelles trois petites questions que je vous pose? Alors, qui est ou sera responsable de l'enseignement universitaire francophone en ligne aujourd'hui, dans un an, dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est une grosse question. Et aujourd'hui, avec les Indiens qui commencent à faire de la formation en anglais, imaginez, ça ne sera pas long en français. Alors, qui sera vraiment responsable si on ne prend pas la place? Sommes-nous outillés pour offrir un enseignement universitaire en ligne de qualité? Et qu'est-ce qu'on entend par la qualité? Il y a toute la, toute l'évaluation de qualité. Il y a plein de choses dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la qualité? Est-ce que c'est la qualité économique ou c'est la qualité pédagogique? Qu'est-ce qu'on évalue? On peut évaluer les deux aussi. Adapté. Est-ce que c'est vraiment adapté à chaque apprenant tout au long de leur vie? Est-ce que je peux y revenir à ce contenu-là? Est-ce que j'ai l'accès à ce contenu? Combien de fois on fait de la formation en ligne, puis les gens nous disent « J'ai beaucoup aimé, mais j'ai plus accès à mon contenu. Qu'est-ce que je peux faire? » Alors, nous, on a mis au point un système qui permet à un étudiant, au fur et à mesure de son apprentissage, il y a une page web très intéressante, il y a un petit bouton sur le bas de la page, il clique dessus, et ça s'en va dans son portfolio. Donc, tout ce qu'il peut le suivre dans sa formation, il peut l'obtenir dans son portfolio, il peut reclasser ses notes, et puis ça peut devenir un excellent instrument de travail. Constamment à jour. Le problème des dispositifs d'aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui les fait pour nous. Puis quand je vais les mettre à jour, c'est « Ah, ben là, pas avant 6 mois ». Comment je peux avoir un dispositif qui peut être en partie développé par les autres, mais auquel j'ai après accès? Corriger des fautes, changer une phrase, changer un paragraphe, changer une image qui n'est plus d'actualité. Le problème de la formation en ligne, c'est qu'une fois que c'est fait, ça devient vite obsolète, mais personne ne corrige. Donc, il faut qu'on ait des dispositifs qui permettent aux enseignants ou à l'équipe de pouvoir mettre à jour rapidement ce contenu, même s'il a été préparé par quelqu'un d'autre. Et avec une petite formation minimale. Pas une formation de 5 jours, une petite formation minimale d'une heure ou deux. Et surtout, est-ce que vous croyez que ça va exister entre les mains des enseignants? Parce que jusqu'à maintenant, les enseignants ne sont pas vraiment là. Tout le processus se fait à l'extérieur d'eux. Si on les impliquait dans le processus, ils seraient peut-être plus présents dans la suite. Dernière question. Qui décidera des technologies web qui seront utilisées pour notre enseignement et qui orienterons-nous en partie nos choix pédagogiques? Qui va faire cette décision? La technologie ou la pédagogie? Alors, je vous remercie en espérant que j'ai été à temps. Voilà.